On va continuer notre série sur Lévitique. On était dans la section, pour ceux qui ont les notes, c'est à la page 14, on est rendu au numéro 11. C'est la section qui explique un petit peu les différents chapitres du livre de Lévitique, mais c'est une explication un petit peu sommaire. Mais si quelqu'un, tout en lisant Lévitique, en même temps que tu lis les chapitres, tu revises un petit peu. Ça, je vous le dis, ça a pour effet que la prochaine fois que tu le relis, tu te souviens de certaines choses que tu as lues, puis plus tu vas le faire souvent, plus il va venir un temps que ça devient très intéressant. Donc, on était rendu à la page 14, le numéro qui était indiqué 11, là, dans Lévitique. Ça explique la section Lévitique 22. Lévitique 7, versets 22 à 38. Alors, c'est vraiment une figure de la communion du racheté avec Dieu et avec ses frères. Le sacrifice de prospérité était le seul dont chacun recevait sa part. Dieu avait la sienne, à savoir la graisse et le sang, qui rappellent ses droits à notre dévouement et à notre vie. Aaron et ses fils se voyaient attribuer la poitrine tournoyée et l'épaule élevée, image des affections et des forces du racheté qui appartiennent à Christ et aux siens. Enfin, l'adorateur lui-même y trouvait son aliment. Et remarquons que la nourriture des sacrificateurs dépendait des sacrifices de prospérité. L'énergie spirituelle que le croyant pourra employer au service du Seigneur découle de la communion qu'il aura réalisée avec lui. Les deux épîtres aux Corinthiens en sont la confirmation. La première traite de la communion. La seconde a pour sujet le ministère. Notre service ne sera utile et béni que dans la mesure où nous serons nourris du parfait sacrifice de prospérité et où nous aurons, à son exemple, livré nous-mêmes nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, comme on le lit par exemple dans Romains chapitre 12, verset 1. C'est le secret pour discerner, selon le même chapitre, quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite, et ensuite pour l'accomplir joyeusement. On s'en va dans l'autre section qui est chapitre 8, versets 1 à 21. Alors, nous avons considéré dans les sept premiers chapitres le sujet des sacrifices et arrivons à présent à celui de la sacrificature. Si le pécheur a besoin d'un sacrifice, le croyant, lui, a besoin d'un sacrificateur pour exercer le service dont il est chargé. Or, c'est en Christ que nous avons l'un et l'autre. Il est celui qui s'est offert lui-même parfaite victime pour nous mettre en relation avec Dieu, et il est maintenant aussi celui qui remplit les fonctions de souverain sacrificateur pour nous garder dans cette relation. Il était donc nécessaire qu'il fût sacrifice avant d'être sacrificateur. Intéressant de noter que pour la personne de Christ, il est à la fois le sacrifice et le sacrificateur. C'est une notion, parce que dans le temps, le sacrificateur, c'est lui qui tuait la bête, c'était différent. L'animal était différent du sacrificateur, tandis que maintenant, le sacrifice et le sacrificateur, c'est la même personne. Alors, nous voyons dans le chapitre 29 de l'Exode les instructions données par l'Éternel à Moïse pour la consécration d'Aaron et de ses fils. Le moment vient où cette cérémonie peut avoir lieu. Toute l'assemblée d'Israël est convoquée à l'entrée de la tente d'assignation pour y assister et contemple Aaron revêtu de ses vêtements de gloire et de beauté. Combien plus grande est la vision que l'Épître aux Hébreux, appelée l'Épître des cieux ouverts, offre au regard de notre foi. Elle nous invite à considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus, revêtu des attributs glorieux de sa sacrificature. Chose intéressante, c'est que faut se souvenir que le mot sacrificateur et le mot prêtre, ça veut dire la même chose. C'est pour ça que les catholiques appellent encore celui qui officie, le prêtre. Mais le mot prêtre et le sacrificateur, ça veut dire la même chose. C'est intéressant de noter ça, parce que des fois, on lit dans certains livres, ils vont utiliser le mot prêtre. Dans d'autres livres, ils vont utiliser le mot sacrificateur, mais il faut se souvenir que ça veut dire la même chose. Donc, Lévitique, chapitre 8, verset 22 à 36. En retrouvant ensemble dans ce chapitre Aaron avec ses fils, notre pensée s'élève vers celui qui n'a pas honte de nous associer avec lui, de nous appeler ses frères. Que Dieu nous garde en ce qui nous concerne d'avoir honte devant le monde de notre relation avec Jésus. Il est souvent question, dans ces chapitres, d'offrandes tournoyées. Faire tourner un objet sur lui-même permet de bien le montrer sous toutes ses faces. Nous sommes invités à présenter ainsi à Dieu tous les aspects de l'excellent sacrifice que nous apportons devant lui, en lui parlant de Jésus dans ses gloires variées et de son œuvre sous ses différents caractères. La poitrine du bélier de consécration, part spéciale de Moïse, était elle aussi tournoyée. Nous pouvons y admirer, sous leurs multiples côtés, les affections de Christ, qui était la source et la puissance de sa consécration à Dieu. « J'aime le Père, disait Jésus, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. » Comme on le lit dans Jean, chapitre 14, verset 31. La même cause dans notre vie produira le même effet. L'amour seul suscitera une vraie consécration, autrement dit, le sentiment profond que le Seigneur Jésus a tous les droits sur notre cœur, qu'il est digne d'un entier dévouement. Le verset 24 étend ses droits à nos oreilles, à nos mains, à nos pieds, symboles respectivement de l'obéissance, de l'activité et de la marche. Bien sûr, on pense qu'on voit facilement, on parle des oreilles, on parle de, donc c'est l'obéissance. Quand on parle des mains, c'est le symbole de notre activité. Puis quand on parle des pieds, bien, c'est le symbole de notre marche. Quand tu fais des onctions, ces endroits-là, c'est vraiment un symbole, c'est des symboles de ce qu'on vient de dire là. L'autre point, on tombe dans le chapitre 9 de Lévitique. L'Épître aux Hébreux nous présente le souverain sacrificateur qui nous convenait. Saint, innocent, sans souillure, séparé des péchés. On lit ça dans Hébreux, chapitre 7, verset 26. Quel contraste avec Aaron, le souverain, le sacrificateur pris d'entre les hommes, mentionné dans la même épître comme étant obligé d'offrir des sacrifices pour le péché, non seulement pour le peuple, mais aussi pour lui-même. Oui, la différence avec le sacrificateur à l'époque, c'est qu'il fallait qu'il offre un sacrifice pour son propre péché. La différence avec Jésus, s'il n'a pas besoin d'offrir de sacrifice pour son péché, il n'avait pas de péché. C'est une différence énorme. Alors, c'est ce que nous le voyons faire ici. Avant de pouvoir s'occuper des fautes du peuple, Aaron est contraint de régler devant Dieu la question de ses propres péchés. C'est un principe général dont le Seigneur rappelle l'importance dans son discours sur la montagne. Pour pouvoir enlever le fétu qui est dans l'œil de notre frère, il faut avoir ôté d'abord la poutre qui est dans notre œil, comme on le lit dans Matthieu, chapitre 7, verset 3 à 5. La fin du chapitre nous montre comment la propitiation était faite, la question du péché étant réglée, la bénédiction peut venir sur le peuple par le moyen de celui qui en a été l'artisan. La gloire de Dieu peut se manifester et la joie est libre de s'exprimer. Telles sont aujourd'hui, pour le peuple de Dieu, les conséquences bienheureuses de la croix du Christ, que Dieu nous apprenne à les admirer, à y répondre de la même manière. On avance dans le chapitre. C'est sûr qu'on voit très rapidement. On peut pas rentrer dans les détails de tout ça, mais quand même, ça nous donne une idée. Dans Lévitique, chapitre 10, il nous a été rappelé au chapitre 9 qu'il pouvait arriver au sacrificateur pris d'entre les hommes de péché. Nous n'avons pas eu à aller loin pour le vérifier tristement. Chaque fois que Dieu place l'homme dans une relation nouvelle, celui-ci démontre qu'il n'est pas capable d'y faire face. Jusqu'ici, chaque détail avait été exécuté comme l'Éternel l'avait commandé. Alors, c'est une expression qui est répétée 14 fois dans les chapitres 8 et dans les chapitres 9 de Lévitique. Mais à présent, Nadab et Abihu, fils aînés d'Aaron, font ce qui ne leur avait pas été commandé. À peine consacrés, ils présentent devant l'Éternel un feu ne venant pas de l'autel. Le solennel châtiment qui s'ensuit nous rappelle combien il est grave de substituer notre volonté aux instructions de la parole de Dieu. Alors l'épisode de l'arche placé aussi sur un chariot neuf, suivi de la mort d'Uzza. Tu sais, on se souvient, quand l'Éternel avertit comment faire des choses dans les Écritures, puis que les gens s'éloignent puis ils veulent faire leur propre volonté à la place, on voit que le Seigneur répond toujours avec une grande sévérité. Dans le cas de Nadab et Abihu, ils tuent les deux. Dans le cas de celui qui a touché à l'arche, qui s'en allait tomber, il a mis sa main. Le Seigneur avait dit, tu touches pas à ça. Il a touché pareil, il a été foudroyé sur le champ. Alors on voit que c'est le principe qu'il faut retenir là-dedans. Quand le Seigneur nous donne des ordres sur la manière d'adorer dans les Saintes Écritures, faut pas introduire dans les cultes des choses qui ne nous ont pas été commandées sous risque d'avoir des jugements, comme on le voit dans ces chapitres-là. Pas plus les pensées de la chair que ce qui excite ses sentiments. Par exemple, les boissons fortes ne sont tolérées pour rendre un culte à Dieu. On se souvient, par exemple, d'un Corinthien, quand on lit le dimanche, quand on fait le repas du Seigneur, il y en avait qui allaient au culte, dans le temps des Corinthiens, puis avant d'aller au culte, ils se gommaient un petit peu. Ben, le Seigneur, il dit à la fin de 1 Corinthiens 11, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont été malades, il y en a qui ont été sont devenus infirmes, il y en a. On ne joue pas avec les principes que Dieu nous donne dans les Écritures. Puis quand les personnes le font, ben, ils risquent de subir les conséquences qui ont repris ça. Alors, mépriser ouvertement les vérités que l'on connaît amène le transgresseur sous le gouvernement de Dieu. En revanche, comme le montre la fin du chapitre, le Seigneur est plein d'indulgence envers les ignorants et les errants, ainsi que pour ceux qui se courbent sous sa discipline. On est rendu au chapitre 11, versets 1 à 28. Comme l'explique le Seigneur Jésus, ce ne sont pas les choses qui entrent dans l'homme qui le soient, mais bien celles qui sortent de lui. Aussi, cette distinction entre animaux purs et impurs n'a-t-elle pas pour le chrétien qu'une application spirituelle? Quatre groupes d'animaux sont considérés dans ce chapitre. Quadrupèdes, poissons, oiseaux et reptiles. Pour être purs, les premiers devaient réunir deux conditions. Ruminer et avoir le pied divisé. La pureté du croyant dépend à la fois de la manière dont il se nourrit et dont la manière dont il marche. Voyez-vous, ça a des applications quand tu prends le principe qui dit ruminer, donc c'est la manière que tu te nourris, et aussi la manière dont tu marches, c'est le pied divisé. C'est très important de voir les symbolismes à l'intérieur de ça. Alors, aux poissons, il fallait aussi deux attributs, des nageoires et des écailles. Sans les premières, comment se diriger? Comment lutter contre la force du courant? Et sans écailles, le corps n'est pas protégé. Résister à l'entraînement du monde et à ses facilités, c'est le moyen pour un jeune croyant de rester pur. Les oiseaux impurs étaient les carnivores et les omnivores. Si nous donnons en pâture à notre esprit ce qui vient de la chair, ou indifféremment toute lecture ou spectacle qui s'offre à nous, nous en serons inévitablement souillés. Enfin, voici les reptiles et les animaux qui leur sont assimilés. Figure de la puissance du mal, chose abominable. Ayez en horreur le mal en joint, Romains 12, verset 9. On rentre pas dans les détails, mais si on pourrait rentrer dans les détails, il faudrait reprendre les catégories, puis regarder le côté symbolique et spirituel de tout cela. Lévitique, chapitre 11, versets 29 à 47, on est rendu au numéro 17, à la page 17. Alors, en observant les reptiles et les animaux qui fourmillent sur la terre, reconnaissons certains traits et dangers moraux dont nous avons à nous méfier. La taupe et la souris, par exemple, nuisent aux jeunes plantes détruisent les racines vitales. Le caméléon, lui, évoque ceux qui prennent toujours la couleur de leur milieu. Chrétien parmi les chrétiens, mondain accompagné des gens du monde. Dans le fond, tu sais, faut pas voir juste qu'est-ce qu'il parle de l'animal. Faut voir, dans le monde, est-ce qu'on a des caractéristiques qui ressemblent au caméléon? Tu sais, c'est comme, autrement dit, quand on est avec des chrétiens, on a l'air des chrétiens. Quand on est avec le monde, on a l'air du monde. Puis personne n'est capable de faire la distinction. Les versets 32 à 40 montrent combien les choses les meilleures et les plus utiles peuvent être gâtées par ce qui vient du serpent. Que le Seigneur nous apprenne à veiller sur nos esprits et à utiliser de la provision inaltérable qu'il nous a préparée, une fontaine, un puits, un amas d'eau, qui sont vraiment des images de la parole de divine. Alors, sa recette toujours nette, il dit « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi », disait le psalmiste dans le psaume 119, verset 11. Un Israélite pieux se gardait avec soin de tout aliment impur ou immonde, ayant donc une conscience non moins délicate pour distinguer entre ce qui est spirituellement pur ou impur, entre ce qui est susceptible de nourrir notre âme et ce qui est un poison pour elle. La raison profonde de cette séparation rigoureuse, pour nous la trouvons au verset 45, « Dieu est saint et nous sommes son peuple, que le Seigneur nous donne un œil simple. » On a le chapitre 12, versets 1 à 8, et chapitre 13, versets jusqu'à 1 à 8. Comme pour nous montrer que les ressources divines ont devancé l'apparition du péché, la Lévitique considère les sacrifices et la sacrificature avant le péché lui-même. Le chapitre 11 nous a appris à veiller pour ne pas être contaminés par l'impureté extérieure. Mais le mal n'est pas seulement autour de nous, il est également en nous. L'ennemi est, pour ainsi dire, dans la place. Le chapitre 12 nous fait prendre conscience de son caractère héréditaire. Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité et dans le monde, et dans le péché, ma mère m'a conçu. On le lit dans le psaume 51, verset 5. La nature pécheresse d'Adam s'est transmise à toute sa race. Un petit enfant nouveau-né est un pécheur en puissance avant d'avoir commis aucun acte coupable. Et il a besoin, au même titre qu'un adulte, du sacrifice de Christ. Les chapitres 13 et 14 traitent de la lèpre qui représente toujours le péché sous son caractère de souillure. La lèpre, c'est une maladie rongeante, contagieuse, affreuse à voir, supprimant la sensibilité et qu'on ne peut pas guérir. Aux yeux de Dieu, le péché offre ses différents traits. Il se traduit en actes et en paroles, même chez les croyants. Nous ne le savons que trop. Exemple, dans Nombre, on a l'exemple de Marie, la médisance. Géasi, lorsqu'il avait convoité et qu'il avait menti, et Ozias, l'orgueil spirituel, quand il avait voulu offrir, c'était un roi, puis il avait voulu jouer au sacrificateur, puis la lèpre lui a pris au front. Je sais pas si vous avez déjà fait une recherche, moi je me souviens je l'ai déjà prêché, Lévitique, j'avais fait une recherche approfondie sur Internet sur la lèpre. D'affaires, si vous voulez avoir des hauts le cœur, vous regardez ça. Et c'est l'image que le Seigneur utilise pour nous parler du péché dans nos vies. Alors, si nous, on regarde ça, puis ça nous écœure, nos péchés écœurent le Seigneur de la même façon. Pour lui, c'est horrible comme ça. Donc, Lévitique, chapitre 13, versets 9 à 28. Pour que la lèpre soit diagnostiquée, le malade doit présenter deux symptômes. Le poil blanc fait penser au déclin spirituel qui a sa source dans la perte de la communion avec le Seigneur. La tache plus enfoncée que la peau indique qu'il ne s'agit pas d'un défaut superficiel et trahit un mal profond. Mais chose paradoxale et difficile à comprendre, tandis qu'une seule tache a suffi à établir l'impureté du lépreux, à partir du moment où celui-ci se trouve entièrement couvert par la maladie, il peut être déclaré pur. Il est pourtant ainsi. Tel le pauvre lépreux, qui longtemps s'est efforcé de découvrir les parties malades et, à présent, ne peut plus rien dissimuler. À partir du moment où un homme est contraint de se reconnaître entièrement souillé, Dieu peut le déclarer net en vertu de l'œuvre de Christ. « Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas couvert mon iniquité, dit le psalmiste, et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. » Psaume 32, verset 5. Mais toute apparition de chair vive rendait de nouveau impure, car elle est l'image des vains efforts de la vieille nature pour s'améliorer. Au chapitre 5 de Luc, versets 12 et 14, ça se dit « Un homme plein de lèpre venant à Jésus est aussitôt guéri, comme l'est tout pécheur qui reconnaît son état misérable et fait appel à son amour, et le Seigneur l'invite pour nous rendre témoignage à se conformer aux instructions du chapitre 14 de notre livre. » On va faire 13. Certaines tâches, certaines maladies de peau pouvaient induire en erreur. Le malade était alors enfermé pendant 7 jours, puis examiné pour vérifier s'il s'agissait ou non d'une plaie de lèpre. Ne jugeons jamais précipitamment. Exerçons-nous à présumer le bien chez les autres plutôt que de leur prêter d'emblée de mauvais motifs. L'amour n'impute pas le mal, comme on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Remarquons que le malade n'avait pas donné son avis. C'était le sacrificateur qui voyait, puis déclarait la nature de la plaie. Peu importait ce que l'homme pensait à son propre sujet, il ne pouvait rien sentir et croître en parfaite santé tout en étant gravement malade. Combien de personnes ignorent qu'elles sont atteintes de la maladie du péché? Elles n'ont jamais considéré leur état à la lumière de la parole de Dieu. Elles ne se sont pas tenues devant le sacrificateur. C'est lui qui établit la culpabilité de l'homme et les déclare irrémédiablement perdus. Finissez-en avec l'homme, car quel cas doit-on faire de lui? Isaïe 2, 22. Mais le sacrificateur qui constate ainsi notre état est aussi celui qui s'en est occupé en grâce, comme le grand médecin, et en a donné à nos âmes une entière guérison. Alors, Lévitique 13, versets 45 à 59. Elle était terrible, la condition du lépreux en Israël, chassé du camp, sans espoir d'y retourner jamais, séparé des siens, obligé de proclamer de loin son misérable état, il se devait de crier « impur, impur ». Alors il était exclu de la congrégation, il était une image de ce que nous étions, gens des nations, sans droit de cité en Israël, n'ayant pas d'espérance. Mais maintenant, annonce l'apôtre, vous avez été approchés par le sang de Christ. Ce qui nous conduit à l'œuvre de la purification décrite au chapitre 14. L'Évangile nous montre plusieurs de ces pauvres lépreux implorant la pitié du Maître. Et lui, plein de compassion, posait ses mains sur eux pour les guérir sans être lui-même souillé par ce contact. Non seulement il pouvait, mais dans son amour, il voulait les rendre parfaitement nets. De même, ce cher Sauveur peut et veut encore purifier de tous ses péchés quiconque se reconnaît impur. La lèpre dans un vêtement, dans le verset 47 à 59, représente le mal qui peut s'insinuer dans nos habitudes et dans notre témoignage. Que le Seigneur nous donne de la vigilance pour le déceler, du courage pour le brûler, autrement dit, de le juger à la moindre apparition. On va faire Lévitique 14, on a encore quelques minutes. Le jour de la purification du lépreux est arrivé. On l'amène au sacrificateur. Remarquons le rôle effacé, mais indispensable, de l'ami qui conduit le malade à celui qui va lui annoncer la guérison. Il est précieux d'être employé par Dieu pour amener des pécheurs au Seigneur Jésus. C'est un service qu'un jeune chrétien peut déjà accomplir. Mais si le sacrificateur était demeuré dans le tabernacle ou dans le camp, le lépreux, qui en était chassé, n'aurait jamais pu le rencontrer. Le sacrificateur sortait donc hors du camp. Pour rencontrer le pécheur, Jésus a quitté la gloire. Nous ne pouvions faire un pas vers lui, alors lui a fait tout le chemin pour venir jusqu'à nous. Comment le fils prodigue serait-il entré sale et en haillons dans la maison de son père? Celui-ci sort à sa rencontre et le fait revêtir la plus belle robe pendant qu'il est encore dehors. Suivent les détails de la purification. Les deux oiseaux, ensemble, nous parlent du remède divin applicable au péché de tout homme. La mort du Seigneur, le premier oiseau était égorgé. Sa résurrection, le second oiseau s'envolait, marqué du sang qu'il emportait au ciel pour le placer symboliquement sur le regard d'un Dieu satisfait. On va faire encore le numéro 23 et on va arrêter là. Le numéro 23, c'est Lévitique 14, versets 14 à 32. « Il sera pur », conclut les versets 9 et 20. Là non plus, il ne s'agit pas de l'opinion du lépreux guéri. Dieu déclare pur, saint, le pécheur régénéré, à qui cette parole doit suffire, même s'il ne ressent pas d'émotion particulière. Vous avez été lavé, sanctifié, justifié au nom du Seigneur Jésus, affirme l'Écriture dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Avec les oiseaux, image de l'œuvre de Dieu pour nous, il fallait deux choses, figure de son œuvre en nous. L'eau, puissance purifiante de la parole, et le rasoir. Le lépreux rasait ses cheveux, sa barbe, ses sourcils. Tout ce qui rappelait la force de l'homme était mis de côté. On appelle l'affranchissement ce travail de l'esprit qui nous conduit à juger ce que produit notre vieille nature. Intéressant, hein, la question du rasoir, ta vieille nature qui reproduit des choses, puis le rasoir, c'est très intéressant. Le sang du sacrifice était appliqué à l'oreille, à la main et aux pieds du lépreux guéri, exactement comme il avait été fait au sacrificateur le jour de sa consécration, et de même avec l'huile. En outre, le lépreux était oint d'huile. Détail extraordinaire, il était seul en Israël avec les rois et les sacrificateurs à recevoir cette sainte onction qui correspond à l'opération du Saint-Esprit dans le cœur du racheté. Deux pécheurs souillés, lavés dans son sang, Christ a fait un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alors on va arrêter là pour aujourd'hui, on va être rendu au numéro 24 à la page 21 pour la prochaine fois. On devrait terminer la semaine prochaine.